Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedudia, bonjour. En République démocratique du Congo, deux militaires congolais ont été tués et un autre capturé à l'issue d'un incident entre les marines congolaises et burundaises dans la nuit de lundi à mardi sur le lac Tanganyika, frontalier des deux pays, a dit à l'AFP le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée congolaise dans la province du Sud Kivu. Le capitaine Kasereka a blâmé le manque de communication, mais aussi l'obscurité sur le lac. Selon lui, la marine congolaise était en patrouille de reconnaissance quand elle a été confondue avec des bandits par la marine burundaise. Un responsable de la société civile de Moko sur la rive congolaise du lac a lui dit que des échanges de tirs ont opposé les deux forces après que les militaires congolais s'en sont pris à des pêcheurs burundais à qui ils avaient ravi 5 litres de carburant. Le Burundi a donné une autre version de l'incident, affirmant avoir attaqué un groupe de 4 bandits armés de fusils vers 2 heures locales mardi, dont 2 ont été tués par balle, précisant que les 2 autres s'étaient noyés dans le lac, ajoutant que l'identité de ces bandits restent inconnus et que les enquêtes sont en cours. En Guinée, les putschistes qui ont renversé le président Alpha Condé ont libéré hier un premier groupe de 10 d'opposants au régime déchu. Un sommet de la CEDEAO sur la Guinée est prévu ce mercredi. Nous y reviendrons avec Bagasikoura en seconde partie de cette édition. Le Burkina Faso et le Mali se sont concertés hier pour mener dans les prochains mois des opérations militaires conjointes contre les groupes djihadistes qui ciblent ces deux pays frontaliers d'Afrique de l'Ouest, a annoncé le ministre malien de la Défense Sadio Camara à l'issue d'entretien à Ouagadougou avec le président Roch Marc Christian Kabore. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo a dévoilé ce mardi les membres d'un comité chargé de réfléchir aux contours de son futur parti, une liste dans laquelle figure Simone Gbagbo, l'ex-première dame, qui se dit peu encline à rejoindre cette nouvelle formation. La Cour constitutionnelle du Cap-Vert a autorisé mardi l'extradition vers les États-Unis de l'homme d'affaires colombien Alex Saab, accusé de blanchiment. Ce proche du président vénézuélien Nicolas Maduro avait été interpellé lors d'une étape technique de son avion au Cap-Vert en 2020. Deux députés de l'opposition ougandaise ont été inculpés mardi pour avoir prétendument orchestré une vague de meurtres à la machette qui a fait des 10 de morts dans le sud du pays, une décision qualifiée de persécution politique par leur avocat. L'Afrique a dépassé mardi le chiffre des 200 000 morts depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le continent souffrant d'un manque cruel de vaccins, avec moins de 3% de sa population entièrement immunisée à ce jour. Le COVID-19 a eu un impact dévastateur sur la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui a connu un recul sans précédent, a déploré mardi le Fonds mondial de lutte contre ces maladies dans son rapport annuel. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'entretient ce mercredi en Allemagne avec ses partenaires de 20 pays secoués par le retrait d'Afghanistan après l'annonce du nouveau gouvernement afghan mardi. Monsieur Blinken a quitté le Qatar, le plus grand centre de transit du pont aérien en provenance d'Afghanistan. Le procès du cerveau présumé des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, Khaled Sheikh Mohammed et de 4 autres accusés, a repris mardi après 18 mois d'interruption à la prison militaire de Guantanamo, des kamikazes, au Stade de France, des terrasses de bars et le Bataclan mitraillé et le carnage en plein Paris. La justice française replonge ce mercredi et pour 9 mois dans l'horreur des attentats djihadistes du 13 novembre 2015, les plus meurtriers commis en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Au Mexique, les autorités font état d'un mort et de quelques dégâts après. La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, les forces armées ont affirmé ce mardi avoir tué plus de 40 miliciens du groupe Codeco lors de combats en cours depuis la veille en Ituri dans le nord-est du pays. Le point avec Rosine Munezero.
Ces affrontements se sont déroulés dans la région minière de Kobou, en territoire de Djougou, au nord-est de Bounia, chef-lieu de la province, a précisé le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Il avait fait état lundi de 3 rebelles tués et 4 blessés. 24 heures plus tard, il a dit qu'il s'agit de plus de 40 miliciens Codeco neutralisés dans cette offensive, dont leur chef local. Par ailleurs, mardi, 2 soldats de la RDC ont été tués dans une altercation avec leurs homologues burundais sur le lac Tanganyika, a déclaré le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée dans la province du Sud Kivu. L'incident est survenu par manque de communication, mais aussi à cause de l'obscurité sur le lac, a-t-il expliqué. Selon un responsable de la société civile de la localité d'Omboko, située sur la rive congolaise du lac, des échanges de tirs ont opposé les deux forces après que les militaires congolais s'en sont pris à des pêcheurs burundais. Très poissonneux, le Tanganyika est le deuxième plus grand lac d'Afrique, s'étendant du nord au sud sur près de 680 km de long. Ses rives s'étirent le long de 4 pays, la RDC, le Burundi, la Zambie et la Tanzanie.
Au Zimbabwe, le gouvernement a annoncé hier qu'il allait contraindre les fonctionnaires, dont les enseignants, à démissionner s'ils ne se font pas vacciner. Mohamed Humfa nous en dit plus.
Si vous êtes employé par le gouvernement pour la protection des autres et de ce que vous servez, faites-vous vacciner, a déclaré le ministre zimbabwéen de la justice, Ziyambi Ziyambi, sur une radio locale. Mais si vous voulez faire valoir vos droits à ne pas être vacciné, vous pouvez démissionner, a-t-il ajouté, précisant que cette mesure s'appliquerait aussi aux enseignants qui sont 100 000 sur quelque 300 000 fonctionnaires. Le gouvernement de Harare tente depuis plusieurs semaines d'augmenter le nombre de personnes vaccinées. Plus de 2,7 millions sur les 15 millions d'habitants ont jusqu'ici reçu une première dose de vaccin. Ce pays d'Afrique australe a déjà rendu obligatoire le vaccin pour se rendre sur les marchés, dans les salles de sport, les restaurants et les examens universitaires. Le congrès des syndicats du Zimbabwe a contesté en août devant la justice la vaccination obligatoire de salariés. Malgré tout, ces mesures ont engorgé les centres de vaccination pauvrement approvisionnés et devant lesquels il n'est pas rare de voir des files d'attente se former dès 4 heures du matin pour tenter d'avoir une dose.
Faire appliquer la charia, c'est ce que le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, a demandé au nouveau gouvernement afghan dans son premier message depuis la prise de pouvoir des islamistes il y a plus de 3 semaines. Un gouvernement partiel a été dévoilé hier mardi. Le point avec Abdourahman Diab.
J'assure à tous nos concitoyens que les gouvernants travailleront durement à faire respecter les règles islamiques et la charia dans le pays, a-t-il déclaré dans un communiqué en anglais. Le chef des talibans, qui n'est pas apparu en public depuis très longtemps et dont les interventions publiques sont très rares, ajoute que le nouveau gouvernement fera en sorte d'installer une paix, une prospérité et un développement durable dans le pays. Il enjoint à ses compatriotes de ne pas quitter le pays, assurant que le régime taliban n'a de problème avec personne, alors que plus de 120 000 Afghans se sont exilés ces dernières semaines par crainte des talibans. Il dit également souhaiter des relations fortes et saines avec les voisins de l'Afghanistan et tous les autres pays et assure que son régime prendra des mesures fortes et efficaces pour la protection des droits de l'homme. Nommé à la tête des talibans en mai 2016, Hibatullah Akhundzada était jusque-là inconnu du grand public. Il était plus impliqué dans les questions judiciaires et religieuses. Mullah Mohamed Hassan Akhund, qui a été le chef du puissant conseil exécutif des talibans, dirigera le gouvernement. Le cofondateur des talibans, Abdul Ghani Barada, sera son adjoint, alors que le Mullah Yacoub, fils du Mullah Omar, est ministre de la Défense. Amir Khan Muttaqi, négociateur taliban à Doha, prend la tête du ministère des Affaires étrangères.
La Minute Éco, Rosine Munezero.
Au Zimbabwe, l'industrie du cannabis pourrait représenter une source non négligeable de devises étrangères avec la hausse de la demande mondiale. L'Agence nationale de développement et de l'investissement a annoncé avoir déjà octroyé 57 licences à des investisseurs pour la culture et la transformation du cannabis à des fins thérapeutiques. Les nouveaux entrants dans le secteur sont aussi bien des acteurs étrangers que des entreprises locales. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo vient de lancer une nouvelle usine de production de caoutchouc d'un coût total de 2 millions de dollars. L'unité dénommée Narubiz est dotée d'une capacité de transformation de 20 tonnes de latex par jour. Elle expédiera principalement ses produits vers la Turquie, la Malaisie et Hong Kong. D'après les autorités, l'usine devrait générer chaque année près de 10 millions de dollars de devises et offre actuellement 1300 emplois. En automobile, le boom longtemps attendu des véhicules électriques est effectif depuis plusieurs mois, écrit Ecofin. L'agence estime que presque tous les grands constructeurs automobiles ambitionnent de passer au tout électrique d'ici 2030, ce qui devrait se traduire par une hausse de la demande de plusieurs minéraux comme le cobalt, le lithium, le manganèse ou encore le graphite que possèdent plusieurs pays africains.
Merci Rosine. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Suite et fin hier des matchs de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, Zone Afrique, 3-1 pour le Sénégal face au Congo. Les Lions de la Teranga enchaînent ainsi avec une deuxième victoire en deux matchs, 2-1 pour le Nigeria face au Cap-Vert. La Tunisie a battu la Zambie 2-0. La Tanzanie a eu le dernier mot devant Madagascar, battu 3-2, 1-0 pour le Malawi face au Mozambique, même score pour l'Éthiopie devant le Zimbabwe, 1-0 pour la Guinée équatoriale qui recevait la Mauritanie, la Libye a battu l'Angola 1-0 et la Guinée-Bissau a disposé du Soudan 4-2, 1-1 dans le match attendu entre le Burkina Faso et l'Algérie à Marrakech au Maroc. Le compte-rendu de la rencontre avec Kader Traoré.
Sur le papier, ce match entre Étalon et Fennec était quelque peu déséquilibré, car d'un côté, il y avait une équipe burkinabé en reconstruction, avec l'absence de joueurs cadres comme Alain et Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba, Charles Kabore. De l'autre côté se dressait l'Algérie, l'ogre du football africain, champion en titre de la CAN et qui surfe désormais sur un record de 28 matchs sans défaite. D'ailleurs, les Fennec vont prouver qu'ils sont les favoris du groupe A en allumant les premières matchs de la partie. Soufiane Feghouli, bien servi au cœur de la défense burkinabé, ouvre le score. Après, le match devient une attaque et défense avec une grosse possession de balles des Algériens. Il aura fallu un bon Hervé Kofi Kwaku dans les perches du Burkina pour éviter le naufrage. Le score restera tel jusqu'à la mi-temps. À la reprise, les Burkinabés reviennent conquérants, doublés de bonnes intentions dans le jeu. Ils se donnent corps et âme et poussent les Algériens à douter. À la 64e minute, Franck Lassina Traoré sur le côté sert Faisal Tapsoba. Le sociétaire du Standard de Liège contrôle le ballon et trompe le portier adverse Raïs Boli. Cette égalisation libère l'équipe Burkina qui joue désormais sans complexe et parvient à casser toutes les offensives algériennes. Un but partout, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre botswanais Joshua Bondo. Ce résultat sonne comme une contre-performance pour les Fennecs et un exploit pour les Étalons. Les deux formations se tiennent au premier rang du groupe A avec 4 points. Le lundi, le Niger qui avait battu Djibouti par 4 buts à 2 est troisième avec 3 points. Djibouti ferme la marche avec 0 point en 2 sorties. Ouagadougou, Kader Traoré pour VOA Afrique.
Dans la zone Europe, l'équipe de France s'est rassurée contre la Finlande grâce à une victoire 2-0 avec un doublé d'Antoine Griezmann. Les Pays-Bas ont déroulé contre la Turquie 6-1. Bien que privé de Cristiano Ronaldo, suspendu après une accumulation de cartons jaunes, le Portugal s'est imposé 3-0 contre l'Azerbaïdjan. La Serbie a été tenue en échec par l'Irlande 1-1. Le Danemark enchaîne avec un sixième succès en autant de rencontres lors de ses éliminatoires. Les Danois ont dominé Israël 5-0. L'Écosse s'est imposée 1-0 devant l'Autriche. Rugby, le troisième et dernier tour des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2023 aura lieu en France en juillet 2022. C'est ce qu'indique le directeur général du comité d'organisation Claude Haché. Cette rencontre sont programmées avec un mini-tournoi à 8 qui débute au stade des quarts de finale. Namibie-Burkina Faso, Zimbabwe-Côte d'Ivoire, Sénégal-Algérie et Ouganda-Kenya. Le vainqueur de la compétition se retrouvera dans la poule A avec la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et une équipe issue des éliminatoires nord-américains. Le mondial de rugby France 2023 est prévu du 8 septembre au 28 octobre.
Merci Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebouya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les chefs d'État de la CEDEAO tiennent ce mercredi un sommet virtuel pour se pencher sur le sort de la Guinée, où le président Alpha Condé a été renversé dimanche par les forces spéciales. Et si la Guinée en est arrivée là, c'est bien à cause du laxisme de l'organisation ouest-africaine, selon Baouri, président de l'UDRG et membre de la CORED, une alliance politique composée de 18 partis en Guinée. Au micro de Bagassi Koura, il revient d'abord sur les raisons qui ont pu conduire à ce putsch.
Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est qu'une rectification d'un putsch qui a été organisé dès le 22 mars 2020. Donc, dans le contexte actuel, c'est malaisé de dire que c'est un coup d'État parce que le régime politique qui était déjà en place n'avait plus de légitimité démocratique parce que issu de violations graves de dispositions d'intangibilité de la Constitution de 2010.
Est-ce que vous êtes en train de dire que les actes qui ont été posés depuis dimanche, notamment concernant le fait qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, ça vous rassure?
Non, ce sont des dispositions qui vont dans le bon sens parce que la Guinée a été toujours caractérisée par l'exacerbation de la violence d'État.
Alors, comment vous voyez justement cette transition-là?
La transition est un impératif et il faut que cette fois-ci, qu'elle soit inclusive, impartiale et qu'elle s'attaque effectivement aux dispositions permettant de jeter les bases d'un véritable État de droit, d'une part, avec des institutions crédibles et légitimes, et avec des mécanismes d'organisation des élections qui assurent la neutralité, la transparence, l'exhaustivité du fichier électoral. Si tout cela est réuni, alors les possibilités d'un renouveau et d'une renaissance de la Guinée pourront être possibles.
Il y a eu ces rumeurs sur la libération des détenus politiques. Est-ce que vous avez des informations dans ce sens?
Des dispositions sont prises pour assurer la libération d'environ 711 détenus politiques. Vous voyez, le nombre est impressionnant.
Alors, la CEDEAO se réunit sur la situation guinéenne. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle devrait faire?
La CEDEAO, comme ça se doit, est invitée à venir à Conakry pour discuter avec les nouvelles autorités des dispositions et d'organisation de la transition. Mais malheureusement, il faudrait que cette fois-ci, qu'elle fasse preuve de responsabilité, de rigueur, parce que c'est sa passivité, et notamment celle de l'Union africaine, qui ont permis au président Alpha Condé d'avoir deux mandats. Et de ce point de vue, cela a amené une crise grave pour la République de Guinée. Espérons que cette fois-ci, la CEDEAO sera exigeante par rapport au respect strict des dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections et des traités concernant également les traités de la CEDEAO.
Le président de l'UDRG, Baouri, joint à Conakry.
Mandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la chute du président Alpha Condé en Guinée et les coups d'État en Afrique. Troisième putsch dans la sous-région depuis le mois d'avril, il intervient moins d'un an après qu'Alpha Condé a rempilé pour un troisième mandat controversé. La Guinée se dirige donc vers une nouvelle transition militaire. Et quels sont les chantiers des nouveaux maîtres de Conakry? Pourquoi assiste-t-on à un retour des coups d'État en Afrique de l'Ouest? Comment garantir la stabilité institutionnelle en Afrique? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Les émissaires de la CEDEAO, qui ont achevé une mission de 3 jours à Bamako, se sont dit préoccupés quant à la tenue, comme prévu en février 2022, des élections nationales censées ramener les civils au pouvoir au Mali après 2 coups d'État militaires en 1 an. Mariam Kouyaté.
La mission conduite depuis dimanche au Mali par l'émissaire de la CEDEAO, l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan, reste préoccupé par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral, selon un communiqué lu devant la presse. Après 2 coups d'État en moins d'un an, les militaires au pouvoir se sont engagés sous la pression de la communauté internationale et de la CEDEAO à rendre le pouvoir aux civils et à organiser des élections nationales en février 2022 à l'issue d'une transition limitée à 18 mois. Au fur et à mesure que s'approchent ces échéances électorales, le doute va cependant grandir quant au respect du calendrier. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, accompagné d'une photo délégation, a échangé lundi avec le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et certains membres du gouvernement. La délégation a aussi rencontré les membres de la classe politique et de la société civile. Mardi, la mission de la CEDEAO a rappelé l'importance du respect de la date des élections annoncées afin de montrer la crédibilité du processus de transition. Elle a encouragé le gouvernement de transition à présenter rapidement un chronogramme ou échéancier pour la tenue de ces élections, une mise en garde qui intervient alors que ces dernières semaines, plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le Mali pour demander une prolongation de la transition. Bamako, Mariam Kouyaté pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le Cameroun est à la traîne dans la mise en œuvre de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Le pays n'a pas encore élaboré son plan national et pourtant, il fait partie des 104 nations signataires de la résolution de l'ONU visant à promouvoir les petits producteurs agricoles. Ce plan devrait permettre à ces derniers de bénéficier des appuis financiers pour produire davantage. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
L'agriculture familiale fait référence à l'ensemble des activités agricoles pratiquées dans un cadre familial par les petits producteurs. Depuis 2019, un programme des Nations Unies vise à rendre cette agriculture entreprenante, modernisée et durable, tout en assurant des fonctions économiques, sociales, culturelles et écologiques pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Raphaël Boucanier-Megno est chargé du projet à l'Institut international pour le développement économique et social, INADES.
Le plaidoyer que nous faisons, c'est que les mécanismes qui sont mis en place pour développer l'agriculture puissent prendre en compte ce modèle de production, qui est un modèle de production qui permet, n'est-ce pas, aux Camerounais de s'identifier comme Cameroun à l'extérieur. Quand vous êtes producteur familial, vous vous auto-employez et en même temps, le système de production familiale a ses méthodes et ses techniques qui permettent de régénérer, par exemple, le matériel végétal amyrolé dans la semence.
La décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale couvre la période 2019-2022. 104 pays ont opté de la mettre en œuvre en élaborant chacun un plan d'action. Celui du Cameroun reste encore attendu. Célestin Nga est le secrétaire exécutif de la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale.
Nous devons faire le plaidoyer auprès des institutions publiques, mais aussi auprès des partenaires techniques et financiers pour que des mesures soient prises afin que les conditions de vie et de travail des petits producteurs agricoles soient améliorées. Mais aussi, nous formons les petits producteurs agricoles à s'améliorer.
Dans le monde rural, les pratiquants de l'agriculture familiale semblent cependant menacés par plusieurs facteurs. Prosper Parfebe Salambassi est chef traditionnel et maire de Monatélé, une commune agricole située à 90 km au nord de Yaoundé.
Lorsqu'une terre n'est pas immatriculée, dit-on, elle est du domaine national. L'État vient s'en approprier, dépossédant les populations de la seule ressource dont elle dispose pour la survie. Et même lorsqu'il arrive que ces populations soient indemnisées, il faut revoir les prix de ces expropriations pour encourager l'agriculture familiale. Il est important de revoir la loi foncière.
Selon un cadre du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, des rencontres avec quelques organisations paysannes se sont déjà tenues en vue de la préparation du plan d'action du Cameroun pour l'agriculture familiale, sans aboutir jusqu'ici à un document final. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afrique du Sud, une nouvelle étude révèle que le taux d'abandon scolaire a triplé à la suite de la pandémie de coronavirus. Éducateurs et associations redoublent d'efforts pour encourager les jeunes à se réinscrire. Reportage à Johannesburg de Linda Gievtash, récit de Claire Morin-Gibourg.
Kabelo Ramani Wane n'est pas retourné dans son lycée rural au nord de Pretoria lorsque les salles de classe ont rouvert après la fermeture suite à la pandémie. Cet adolescent âgé de 16 ans s'est habitué à passer ses journées à la maison. Avec un accès limité à Internet, l'apprentissage en ligne était impossible et il a rapidement pris du retard. Les agents de la protection de l'enfance et de la jeunesse, comme Marie Van Royen, qui travaille avec son établissement, expliquent qu'il fait partie de ceux qui se sont sentis trop découragés pour reprendre les études.
C'est difficile pour eux de rattraper leur retard. Quand je parle aux apprenants, ils me disent que c'est accablant. Alors certains se sentent démotivés pour revenir à l'école. Pour eux, aller à l'école, c'est devenu trop de travail à cause de la pandémie.
Une étude sur les effets de la pandémie en Afrique du Sud a révélé que 500 000 élèves ont abandonné l'école en mai cette année. En 2018, ce chiffre n'était que de 230 000 abandons. Ne pas terminer l'école a des effets durables. Selon les experts, le fait de ne pas obtenir de diplôme augmente la probabilité que les enfants rejoignent des gangs, consomment de la drogue, soient maltraités ou que les jeunes filles tombent enceintes ou dans la prostitution. Raïma Issop, de la campagne « Zéro Dropout » ou « Zéro Abandon ».
Nous savons que les élèves qui ont abandonné l'école avant d'avoir terminé la dernière année du secondaire, ici en Afrique du Sud, ont eu du mal à trouver des emplois décents. Le décrochage n'est pas seulement un problème individuel. Le décrochage familial ou communautaire est un problème qui affecte tout le pays, ainsi que la santé économique de ce pays.
La campagne Zéro Dropout l'affirme. Si un seul adulte s'intéresse à l'éducation d'un enfant, cela peut changer les choses. C'est exactement ce que fait le programme Izibindi Ezikoleni en fournissant à 29 écoles des agents de la protection des enfants et des jeunes. Les prestataires de soins proposent aux élèves un accompagnement pédagogique et social en classe, à domicile et pendant les confinements par téléphone. Tembani Yendi est mentor dans ce programme.
Nous identifions aussi les élèves qui décrochent et les défendons à l'école. Veillons à leur réinsertion, les accompagnons en termes de rattrapage. Nous les aidons également dans leur transition vers l'âge adulte en les aidant à s'inscrire dans l'enseignement supérieur et à s'intégrer dans différents programmes.
Élève de seconde, Kabelo Ramani Wane a fait partie des étudiants identifiés par ce programme.
C'est elle qui m'a dit que je devais retourner à l'école. C'est pourquoi j'y suis allé. Je suis retourné à l'école.
La campagne Zéro Dropout et ses partenaires demandent au gouvernement de lancer une stratégie nationale pour réinscrire mais aussi retenir les étudiants. Ils souhaitent également une meilleure tenue des registres de présence afin que les écoles puissent suivre et retracer l'absentéisme afin d'identifier les élèves à risque avant qu'ils n'abandonnent.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebounia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.